VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 3 août 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer, les titres. Le mardi, le Mali ordonne le départ des forces étrangères d'une base de l'aéroport, quelques semaines après l'arrestation de 49 soldats ivoiriens liés à cette base. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, reçoit le général Bruno Barat, nouveau commandant de la force française Barkhane. Au Congo-Brazzaville, le PCT du président Denis Sassou Nguesso rafle 111 des 151 sièges à l'Assemblée après les deux tours des législatives. À Taïwan, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, souligne être venue en paix dans la région face à la colère de Pékin. Taïwan ne reculera pas devant les menaces militaires, affirme pour sa part la présidente de l'île. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le Mali a ordonné le départ dans 72 heures des forces étrangères d'une base de l'aéroport de Bamako, a-t-on appris hier. Cet ultimatum intervient quelques semaines après l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un courrier officiel, les aéroports du Mali ordonnent à toutes les forces étrangères présentes sur la base de la société Sahel Aviation Service, SAS, de la quitter dans un délai de 72 heures. Pour les autorités maliennes, l'hébergement et l'accueil de soldats étrangers sur cette base engendre des risques pour la sûreté intérieure et extérieure du pays et n'était pas prévu dans la convention d'utilisation de la dite base signée en 2018. SAS, une compagnie aérienne privée qui opère des vols dans la région sahélienne, n'a pas répondu publiquement. La base de SAS à l'aéroport de Bamako sert de base logistique pour plusieurs partenaires du Mali, parmi lesquels des soldats ivoiriens, mais aussi des soldats allemands, autrichiens, belges, suédois ou encore pakistanais déployés au sein de missions internationales, notamment l'ONU a dit mi-juillet l'état-major ivoirien. Selon le ministère allemand de la Défense, en mi-juillet, la base de SAS de l'aéroport a été sécurisé par des soldats ivoiriens. L'arrestation le 10 juillet au Mali de 49 d'entre eux à l'aéroport de Bamako a déclenché une crise diplomatique entre Bamako, Abidjan et l'ONU.
Le président nigérien Mohamed Bazoum a reçu hier le nouveau commandant de la force française Barkhane. Le général Bruno Barat s'est allé remercier le chef de l'État nigérien pour le soutien du Niger à la France. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le général Barat a rappelé que le retrait de Barkhane du Mali nécessite énormément de trafic routier. Il y a actuellement 6000 conteneurs à sortir du Mali et on ne peut le faire que par la route. Selon lui, la seule solution pour le faire, c'était de passer par le Niger, et nous souhaitions remercier officiellement le président de la République pour son appui dans cette réarticulation, indique un communiqué de Niamey. La force Barkhane est partie du Mali suite aux tensions avec la junte militaire au pouvoir à Bamako depuis 2020. Elle est actuellement en train de finaliser l'évacuation de ses matériels de ce pays, dont une partie transite par le nord-ouest du Niger, proche de la frontière malienne. De plus de 5000, les militaires français ne seront plus que 2500 au Sahel à l'issue de leur retrait du Mali, qui ouvre une phase de coopération renforcée avec les autres pays de la région, dont le Niger en fonction de leurs besoins, selon l'état-major français. L'armée française compte changer de mode d'action au Sahel, offrant désormais d'intervenir en soutien et non plus en substitution des armées locales, avait déclaré début juillet le prédécesseur de Bruno Barat, le général Laurent Michon.
Le PCT, parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso, a remporté 111 sièges sur les 151 de l'Assemblée nationale à l'issue des deux tours des législatives. C'est ce qui ressort des résultats publiés mardi par le ministre de l'Administration du Territoire. Le PCT ajoute aussi, ainsi plutôt, 9 sièges aux 102 sièges gagnés au premier tour. Les autorités n'ont pas donné le taux de participation, mais selon des observateurs, ces scrutins ont été marqués par une faible affluence des votants. De l'autre côté, dans l'autre Congo, la RDC, l'armée, a annoncé mardi avoir tué 11 terroristes ADF, Forces démocratiques alliées, responsables des massacres de plusieurs milliers de civils depuis 2014 dans l'est du pays. Par ailleurs, le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée à Beni dans le Nord Kivu, a dit que la veille, dans des combats avec un autre groupe rebelle dénommé Maïmaï Mazembe dans le territoire de Lubero, 8 rebelles ont été neutralisés et 2 soldats tués. Le Nord Kivu et l'Ituri sont placés sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a donné plein pouvoir aux militaires, mais qui n'a pas permis jusqu'à présent de mettre fin aux massacres et aux violences des groupes armés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a affirmé mercredi à Taïwan qu'elle était venue en paix dans la région. Elle a déclenché la colère de la Chine qui a annoncé une série d'exercices militaires à munitions réelles dans les environs de l'île qu'elle considère comme l'un de ses territoires à réunifier par la force si nécessaire. Ces exercices menacent les ports et zones urbaines clés de l'île, a déclaré mercredi le ministère de la Défense de Taipei, promettant des défenses renforcées et une réponse ferme. Rosine Monezero.
Nous venons en ami à Taïwan, nous venons en paix dans la région, a déclaré Madame Pelosi, la plus haute responsable américaine à visiter Taïwan depuis 25 ans, lors d'une rencontre avec le vice-président du Parlement taïwanais, Tsai Ing-wen. Saluant la démocratie taïwanaise, elle a dit à la présidente de l'île, Tsai Ing-wen, nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan. Madame Pelosi est arrivée mardi soir à Taipei à bord d'un avion militaire américain, pour une visite non officiellement annoncée. Le ministère chinois des Affaires étrangères a immédiatement réagi, dénonçant ce qu'il a appelé une grave violation des engagements américains vis-à-vis de la Chine et une grave atteinte à la paix et à la stabilité régionale. Il a convoqué l'ambassadeur américain Nicholas Burns à pour des protestations fermes et promis des conséquences très graves, selon l'agence Chine Nouvelle. Mais la plupart des observateurs jugent faible la probabilité d'un conflit armé, malgré la série de manœuvres militaires chinoises annoncées pour aujourd'hui autour de l'île. La présence de 21 avions militaires chinois signalés hier par Taipei dans la zone d'identification de défense aérienne de l'île, ainsi que celle de plusieurs navires américains croisant également dans la région, dont le porte-avions USS Ronald Reagan, selon des sources militaires américaines.
Près d'un an après le retrait américain d'Afghanistan, le président Joe Biden a balayé les critiques pour annoncer la mort du chef d'Al-Qaïda et tenter de se relancer sur la scène politique intérieure avant les élections de mi-mandat en novembre prochain. Le point avec Nanit Talani.
Quand j'ai mis fin à notre mission militaire en Afghanistan il y a presque un an, j'ai décidé qu'après 20 ans de guerre, les États-Unis n'ont plus besoin de milliers de bottes sur le terrain, a déclaré Joe Biden lundi soir en annonçant la mort d'Eman al-Zawahiri. J'ai promis au peuple américain que nous continuerions à mener des opérations antiterroristes efficaces. C'est exactement ce que nous avons fait. James Jeffrey, ambassadeur des États-Unis en Irak, a applaudi cette opération qui démontre d'excellents renseignements. Nathan Sales, un autre ancien diplomate à Atlantic Council, a jugé que la présence de Zawahiri à Kaboul était un échec pour les États-Unis, suggérant que les talibans ont, une fois de plus, trouvé refuge auprès de dirigeants d'Al-Qaïda. Les États-Unis avaient mis à prix sa tête pour 25 millions de dollars. Al-Zawahiri a pris la tête du groupe Al-Qaïda après la mort de son chef Ben Laden en 2011, tué par un commando américain au Pakistan.
Le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, est arrivé mardi au large des côtes turques sur la mer Noire, en application de l'accord signé en juillet entre Kiev et Moscou afin d'enrayer la crise alimentaire mondiale. Les pays de l'OPEP+ se réunissent mercredi à Vienne pour discuter de leur stratégie de production de pétrole sous le regard du président américain Joe Biden, qui a récemment courtisé l'Arabie Saoudite pour tenter d'enrayer la flambée des cours. Jusqu'à présent, le cartel mené par Riyad et ses alliés conduits par Moscou ont résisté aux appels à ouvrir davantage les vannes pour juguler l'inflation alimentée par les prix de l'énergie. L'ONU a annoncé mardi le prolongement in extremis pour 2 mois supplémentaires de la trêve en vigueur au Yémen avec l'espoir d'intensifier les négociations pour parvenir à une paix plus durable dans ce pays ravagé par près de 8 ans de guerre. Le gouvernement du président américain Joe Biden a porté plainte mardi contre une loi dans l'État de l'Idaho qui interdit quasiment tous les avortements, sa première action en justice depuis la volte-face de la Cour suprême des États-Unis sur le droit à l'IVG. La Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Rwanda a lancé une vague de recrutement d'enseignants zimbabwéens dans le cadre d'un accord signé entre Kigali et Harare au début de cette année, rapporte le quotidien East African. 491 enseignants zimbabwéens ont déjà été présélectionnés pour des entretiens qui devraient se dérouler dans les prochains jours. Des diplomates américains et européens en visite en Éthiopie ont demandé au gouvernement d'Addis Abeba de rétablir les services bancaires et les télécommunications dans la région du Tigré. Ces services avaient été coupés dans cette région du nord de l'Éthiopie quelques jours après le retrait de l'armée éthiopienne il y a 1 an. Pour terminer, la Banque mondiale a engagé 70,8 milliards de dollars sous forme d'aide entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Ces fonds représentent près de 70% par rapport au montant moyen des engagements sur la période antérieure à la crise de COVID-19. Ce chiffre englobe un appui de 33,1 milliards de dollars aux pays à revenus intermédiaires et une enveloppe de 37,7 milliards de dollars de dons et de prêts aux pays les plus pauvres. Les engagements en faveur des pays en situation de fragilité, de conflit et de violence ont représenté 16,2 milliards de dollars, soit 43% du total des engagements de la banque.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Basketball pour commencer, l'entraîneur de l'équipe de France ouvre la porte à l'intégration de Joël Embiid.
Quand il sera complètement sélectionnable pour des raisons de papier et physique, je ne vois pas pourquoi on ne le sélectionnerait pas, a affirmé Vincent Collet. Joël Embiid, l'un des joueurs vedettes de la NBA, 5 fois All-Star, a obtenu la nationalité française le 4 juillet, ce qui ouvre la voie à une possible intégration en équipe de France dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Il doit encore obtenir son passeport français et la licence FIBA qui pourront lui permettre d'être sélectionnable en équipe de France. Il aurait souhaité jouer l'Euro du 1er au 18 septembre, a ajouté le manager général des Bleus, Boris Diaw.
Jugée en Russie, la basketteuse Brittany Griner espère rentrer à la maison.
Oui, c'est ce qu'a déclaré l'avocate de la star américaine du basket féminin en procès en Russie pour trafic de cannabis. Moscou et Washington négocient un échange de prisonniers. L'avocate précise que le procès devrait se terminer très bientôt. Jeudi, il y aura les derniers débats, donc le verdict tombera très rapidement, ajoute-t-elle. Arrêtée en février avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis, en arrivant à Moscou, Brittany Griner risque 10 ans de prison pour contrebande de drogue. La double championne olympique dit avoir apporté cette substance en Russie par inadvertance et refute tout trafic de stupéfiants.
Football, 4 pays sud-américains officiellement candidats à l'organisation du Mondial 2030.
L'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay ont officialisé hier mardi leur candidature commune à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Ce n'est pas le projet d'un gouvernement, mais le rêve d'un continent, a déclaré le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, entouré des responsables des fédérations des 4 pays. Ce mondial marquera le centenaire de la compétition dont la première édition a été disputée à Montevideo. Nous sommes dans ce lieu emblématique où l'histoire a commencé, a affirmé Dominguez lors d'une conférence de presse au stade Centenario de Montevideo où s'est jouée la finale de 1930 entre l'Uruguay et l'Argentine, remportée par les Uruguayens 4 buts à 2. Les détails du projet de candidature n'ont pas été dévoilés et seront présentés en mai 2023 à la FIFA, qui doit désigner le ou les pays hôtes en 2024. Les États-Unis, le Mexique et le Canada accueilleront l'édition 2026, le 23e mondial de l'histoire.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudière. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été tué dans une frappe américaine en Afghanistan, mais certains Afghans doutent toujours de l'annonce de la mort du chef d'Al-Qaïda. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a dénoncé l'attaque au drone des Américains comme une violation des principes internationaux. Pour des précisions, Jean-Roger Bion, adjoint à Bruxelles, Claude Moniquet, ancien agent des renseignements français.
Chaque fois que nous avons ce genre d'incident, qu'on élimine un chef terroriste, on a toujours des gens qui disent que c'est faux, que ça n'a pas eu lieu. On a dit ça pour Ben Laden, on a dit ça à de nombreuses autres reprises. Je pense que j'ai tendance à faire confiance aux services de renseignement américains et au président Biden. Je pense que si le président des États-Unis dit que M. Zawahiri a été tué dimanche matin, c'est qu'il a été tué dimanche matin, que les États-Unis ont la preuve, sur base de renseignements précis, probablement provenant de sources humaines, qu'il est bien mort et que c'est le résultat d'une frappe qu'ils ont organisée.
Alors, les États-Unis ont utilisé une fine technologie pour abattre al-Zawahiri. Qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce que cela dit par rapport à la détermination de Washington?
C'est un missile qui a été utilisé une demi-douzaine de fois, toujours dans des opérations terroristes et toujours en arrivant au résultat de toucher la cible sans toucher ceux qui sont proches, même parfois à quelques mètres, ce qui serait impossible avec un explosif. Alors, ce que ça dit deux choses. Ça dit d'abord que les États-Unis ont tout fait pour éviter qu'il y ait des victimes collatérales. Ils voulaient en finir avec Al-Zawahiri, mais ils ne voulaient pas toucher ni sa famille, ni ses gardes du corps, ni son entourage. Et ça dit aussi l'extrême détermination. Mais ça, on le voit bien parce que ce qui s'est passé dimanche matin, c'est l'aboutissement d'une traque qui a duré 21 ans. Et à aucun moment, cette traque ne s'est arrêtée. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de tentatives à différents moments, plus intenses, dans différents fronts. Et puis, pour finir, ça s'est soldé dimanche matin par la mort de Zawahiri.
Alors, l'opération s'est produite au nez et à la barbe des talibans. Est-ce que cela pose un problème dans le problème?
Les talibans, clairement, essaient d'exploiter ce qui s'est passé en condamnant cette frappe de drone américain en disant que les accords de Doha précisaient que les Américains ne pouvaient pas agir militairement en Afghanistan. En fait, les Américains se sont engagés à ne plus déployer de troupes en Afghanistan, mais ils ne se sont pas engagés à ne pas mener des frappes de missiles contre un risque terroriste. En revanche, très clairement, les talibans s'étaient engagés, eux, à ne pas servir de base arrière à Al-Qaïda. Et là, on trouve Al-Zawahiri qui vivait à Kaboul, dans un des quartiers les plus luxueux de Kaboul, dans une villa qui appartient à un conseiller proche du ministre de l'Intérieur, qui est lui-même M. Hakani, qui est lui-même le chef du réseau Hakani, qui est la faction la plus extrémiste des talibans. Donc je pense que pour le moment, ce que les talibans essaient de faire en condamnant les États-Unis, c'est surtout noyer et cacher leur responsabilité. La première responsabilité, c'est la leur. C'est eux qui manifestement ont autorisé Al-Zawahiri à venir s'installer chez eux.
Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE en France, patron d'une agence sécuritaire en Belgique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir des opérations de maintien de la paix en Afrique. La tension est montée d'un cran ces derniers jours dans l'est de la RDC où des manifestations anti-MONUSCO ont fait des victimes parmi les populations et les casques bleus. Les protestataires reprochent à la force onusienne d'être inefficace face aux multiples groupes armés dans la région. Au Mali aussi, la mésentente entre Bamako et Abidjan a relancé le débat sur la présence de l'ONU dans le pays. Qu'est-ce qui explique ces tensions avec les missions onusiennes? Quel est leur avenir sur le continent? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Kenya, l'organe de surveillance pour la cohésion ethnique a exhorté Facebook à supprimer des propos haineux sur sa plateforme sous peine d'être suspendu. Des ministres kényans affirment toutefois que le gouvernement n'a pas l'intention d'interdire Facebook. Le pays tient une élection présidentielle le 9 août. De Nairobi, le point avec Victoria Amunga. Son reportage est relaté ici par Eric Manirakidza.
La menace de la Commission nationale pour la cohésion et l'intégration du Kenya intervient après la publication d'un rapport du groupe de défense des droits Global Witness. Il accuse Facebook d'avoir autorisé des publicités incitant la violence ethnique en vue des élections du 9 août. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a toutefois accusé cet organisme de surveillance d'avoir pris ce qu'il a appelé une décision irréfléchie, assurant que la plateforme ne serait pas fermée. Le ministre de l'Intérieur et des Technologies, Joe Mucheru, a fait écho à cette promesse lors d'un entretien téléphonique avec VOA lundi. Il a déclaré que si les questions soulevées sont valables et ne justifiaient pas le blocage de Facebook.
Ce que je n'ai pas soutenu, c'est l'idée que parce que quelque chose comme cela s'est produit, le premier recours est de fermer une plateforme. Cela ne fait pas partie de notre mandat légal. Et nous avons travaillé avec Facebook et de nombreuses autres plateformes. Facebook, par exemple, a supprimé plus de 37 000 commentaires incendiaires pendant cette période de campagne électorale.
Dans une déclaration de la semaine dernière, Facebook a admis avoir remis des messages et d'incitation à la haine au Kenya, où les données nationales font état d'environ 13 millions d'utilisateurs de la plateforme. Un porte-parole de la société mère de Facebook, Meta, a imputé à l'erreur humaine et à l'erreur de machine le fait d'avoir remis certains contenus incendiaires et a déclaré qu'ils ont pris des mesures pour empêcher de tels contenus. La commission de cohésion du Kenya a déclaré que les élections de cette année avaient été marquées par une diminution des discours de haine. ONG et Société civile kényane ont appelé mardi à des élections pacifiques et transparentes, à une semaine d'une présidentielle au Kenya qui a été plusieurs fois meurtrie par des violences préélectorales et des contentieux post-électoraux.
Washington, la voix de l'Amérique.
Au Gabon, face au chômage élevé dans le pays, des jeunes en difficulté ont monté leur propre atelier de menuiserie ébénisterie. L'Association des jeunes combattants pour le développement est née de la volonté de ses membres de sortir de la délinquance juvénile et de l'oisiveté. À la découverte du fabuleux destin de ces jeunes du quartier PK7 de Libreville, c'est le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
À la tête de l'Association des jeunes combattants pour le développement du Gabon, Jude Kumba Mombou a connu une expérience difficile de la rue. De simple débrouillard dans les gares routières, il est parvenu à s'offrir une formation en mécanique auto. Faute d'emploi à temps plein, il s'essaye enfin dans les bénisteries. C'est ici au quartier PK7 à Libreville que son destin a croisé celui d'autres jeunes du même corps de métier.
Je me suis lancé avec mes frères en leur regroupant, en leur disant que bon, vous êtes des techniciens, pourquoi continuer encore à travailler pour nos confrères expatriés? Pourquoi ne pas travailler pour nous-mêmes afin que nous puissions survenir à nos propres besoins personnels? Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés en association. En premier temps, nous avons commencé à réaliser un salon appelé deux salons. Avec la suite, nous avons fait sortir les lits.
Gilles et ses camarades ont donc monté un atelier de fabrication de meubles. Un projet qui fonctionne grâce à l'expertise des dizaines de jeunes autrefois en conflit avec la loi ou simplement en difficulté sociale. Loïc Tsamba, coordonnateur de l'association, nous présente quelques membres de l'atelier.
Voilà déjà Nicolo Darren. C'est un technicien, en même temps il est membre du bureau actif de l'association, chargé de la logistique, en même temps aussi formateur. Ici nous avons les adhérents, Nous avons notre jeune frère ici déjà une semaine sorti de prison. Depuis la prison, il a écouté nos échos. Il a grandi ici au quartier. Et c'est un jeune, quand il est arrivé, il s'est directement lancé avec nous. Il s'est inscrit dans l'association. Il veut devenir technicien pour changer de vie.
Ce travail d'équipe est en passe de changer leur vie. Rodestin Moukala Malela s'est fait un métier, celui de tapissier.
Pour être un homme qui a la valeur, il faut avoir d'abord un métier. Ce que j'ai aimé, pourquoi? Parce que de savoir que j'ai acquis avec mes confrères expatriés, je suis ici en train de donner ce même savoir ici à certaines personnes qui sont au sein de l'association.
Pour s'assurer une bonne organisation de ses activités génératrices de revenus, le bureau de l'association s'est offert les services de Dan Mungwanda, leader du mouvement de jeunesse.
Lorsqu'ils se sont engagés à se dire désormais il faut qu'on se prenne en charge, je me suis dit oui, il faut bien que l'on les accompagne. Parce que c'était des jeunes, ils étaient figés dans la loisiveté, le vin, beaucoup de choses.
En route pour leur autonomisation économique et financière, les membres de l'association des jeunes combattants pour le développement du Gabon misent sur leurs atouts collectifs et individuels pour relever le défi de l'entrepreneuriat des jeunes au Gabon. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En Côte d'Ivoire, les vacances scolaires ont débuté. C'est un temps de repos et de loisirs pour les étudiants et élèves. Mais certains jeunes en profitent pour joindre l'utile à l'agréable à travers des activités pouvant les occuper sainement, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Pendant les vacances, élèves et étudiants s'adonnent à plusieurs petites activités pour se faire un petit pactole pour préparer la prochaine rentrée scolaire ou pour soutenir leurs parents. Jean-François, élève en seconde C, travaille dans un maquis à Bobo sans manquer.
Je vends de la boisson. J'ai décidé pour faire une activité pendant les vacances parce que mes parents n'ont pas les moyens.
Bamba Fousseni, étudiant en première année d'histoire géographie à l'université Nangu à Broboa d'Abobo à Djamé et vendeur dans un magasin de mèches à Djamé Saint-Michel.
La rentrée, ça me permet de me dépanner un peu au niveau du transport, des fascicules, pour diminuer les dépenses au niveau de la famille. Puisque je suis pas seul, nous sommes une famille nombreuse.
Pour Adjaka Koulibaly, qui vient d'avoir son BEPC, comme job de vacances, elle est serveuse dans le restaurant chez Maman Fatou à Boribana, dans la commune d'Atikoubi.
Je n'ai même pas honte, parce que c'est pour mon bien. Je cherche mon argent, il y a eu mon BPC. On peut m'orienter au privé, parce que c'est le privé qui soit devenu cher. Mes parents m'ont fait privé, je peux les aider aussi.
Se rendre utile et se faire un peu d'argent. Abba Koulibaly prête ses services dans ce lieu réputé de vente de poulets et de poissons braisés à l'espace Figayo dans la commune de Yopougon.
On me fait 20 000 par mois. Pendant les 3 mois, j'ai 60 000. Et cet argent, je le prends ça pour aider mes parents à payer mes nourritures, à faire mes courses personnelles. Donc, job de vacances est une bonne chose. J'encourage mes camarades à le faire.
Mais une motivation qui mobilise pas tous les jeunes. Pascaline Goué est étudiante en lettres modernes.
Les jobs de vacances, je vois pas ça trop nécessaire. Parce que souvent, ça pousse même d'autres à ne plus fréquenter. Quand ils prennent le goût de l'argent, c'est fini. Ils veulent en même temps rester dans ce travail-là. Ils veulent plus aller à l'école.
Cette initiative de certains élèves et étudiants est encouragée par des parents comme Yakuba Konati.
Le job de vacances, ça permet à l'enfant de connaître les dures réalités de la vie, savoir que les parents souffrent pour assurer leur scolarité.
Des actions qui méritent tout de même d'être encadrées, selon le sociologue Jules Yaoukonan.
Il y a un certain nombre de jobs de vacances dans lesquels les jeunes essaient de s'insérer, qui peuvent aussi être des causes de dérives plus tard chez ces jeunes. Donc il va falloir discerner et essayer de faire fonctionner, à mon sens, les brigades des mœurs.
Et en attendant la rentrée scolaire, les jeunes semblent tirer profit de ces vacances. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Diona Cummings. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.